fait enseignant-chercheur à l'Université de Grenoble, l'Université Joseph Fourier. Je fais partie, j'enseigne dans un département de génie civil. Je suis rattaché à l'UFR d'ingénierie, génie civil, etc. Mais je suis chercheur en géographie, aménagement à l'UMR PAT. Vous avez sans doute entendu parler, à l'intéressant des politistes, des sociologues, des urbanistes, des géographes et plus récemment des économistes avec lesquels on a fondé une nouvelle équipe qui travaille sur la question de la transition énergétique, transition énergie-environnement. Et c'était les économistes de l'énergie et de l'environnement. On a une longue tradition grenobloise. Voilà, alors pour en. Moi, je m'intéresse beaucoup à la construction des expertises urbaines et plutôt la construction sur des temps relativement longs. Et le projet, tel qu'on l'a vu ce matin, est une occasion de confrontation des expertises. Et j'essaie à chaque fois de les replacer à la fois dans des temps longs et à la fois sur des échelles, sur diverses échelles, avec une conviction très forte, hein, c'est peut-être le levier du géographe, mais que les apprentissages, les changements d'expertise, la mise au point d'outils relèvent de processus multiscalaires qui s'opèrent donc à la fois par l'expérimentation dans le projet, comme vous l'avez décrite toutes les deux ce matin, mais aussi par des systèmes de mise au point de nouvelles méthodes telles qu'on va le voir cet après-midi à propos des certifications, enfin des labels environnementaux, et peut-être aussi à une autre échelle qu'on ne verra pas aujourd'hui, qui est celle, on va dire, des bassins urbains, c'est-à-dire puisque les métiers de la construction sont organisés, travaillent essentiellement dans le même bassin d'emploi. Alors, c'est peut-être une différence importante entre l'Île-de-France qui se pense d'emblée nationale et les provinces où on a quand même des organisations, des interactions entre les acteurs de filière qui sont très essentiellement d'ordre local, correspondant au bassin d'emploi et au bassin d'emploi de la filière de la construction, puisque c'est un emploi qui est situé, c'est une activité qui est située. Voilà. Je vais attaquer cette discussion. Donc, je tiens d'abord à remercier Aurélie Tricoire qui a eu l'idée de m'inviter, que je ne suis croisé que quelques fois, assez rarement, et auquel j'espère qu'on aura. D'autres échanges. Alors, je suis très très chargé en ce moment. Je n'ai pas forcément fait la préparation qui était nécessaire. Et voilà, m'excuser si c'est encore un petit peu brouillon. Faut savoir aussi que je travaille aussi sur d'autres échelles, notamment sur l'échelle urbaine. Donc, je ne vais pas vous parler du tout de l'échelle urbaine. Plutôt concentré ici sur les échelles de bâtiments, mais aussi sur d'autres pays, mais là on est strictement français. C'était une opportunité, hein. Je ne suis pas sûr de pouvoir revenir, mais c'était une opportunité parce que jeudi, vendredi dernier, il y avait dans cette maison les rencontres AMO 2013 sur la circulation des savoirs et des modèles de l'architecture et de l'urbanisme durable. Et il y a vraiment une très forte complémentarité entre ce dont on débat aujourd'hui et ce dont on a débattu jeudi et vendredi dernier. Et vous verrez que je vais essayer de faire quelques liens, des rapprochements, quelques recommandations aussi, puisque je crois qu'il y a beaucoup de matière, d'éléments historiques qui sont dans le réseau Rameau et qui seraient fort utiles à mobiliser dans vos travaux. Quoi. Le thème, si j'ai bien compris, c'est l'acceptabilité des thèmes de la journée, des consommateurs face aux objets qui ont aussi nécessairement une dimension technologique. ça pose la question. Moi, je prendrais plutôt cette question du rôle. Ça pose la question du rôle de l'innovation dans les procédés. Enfin, et parallèlement, il y a aussi la question du rôle de l'innovation dans les processus d'acceptabilité d'aujourd'hui, actuel. Moi, je vais prendre les choses un petit peu autrement, avec une entrée, c'est pas autrement, mais c'est une entrée particulière dans cet ensemble. C'est la question de savoir, c'est comment sont acceptées et portées les innovations qui découlent de nouveaux paradigmes de la durabilité. Donc je ne discute pas la durabilité, je regarde comment les innovations qui découlent de ce paradigme sont adoptées. Et c'est ce qui a été fait par les deux présidents d'intervention. Avec peut-être une nuance que je vais apporter, enfin en tout cas je me dis, voilà ce que je peux apporter de plus par rapport à ce qui est débattu, c'est le rôle prépondérant des acteurs intermédiaires qui fabriquent la ville. Acteurs qui sont à la fois fabriquent le projet, mais aussi qui le fabriquent à d'autres échelles, qui fabriquent de l'expertise à d'autres échelles. Mon positionnement est très empirique, je ne suis pas un théoricien, j'ai passé une thèse en 2004 après avoir exercé 15 ans dans l'industrie et dans l'enseignement. Donc, c'est avant tout par le terrain que j'approche ces questions, et c'est surtout à des questions sociétales que j'essaie de répondre. Je suis parfaitement incompétent en sociologie des usages et plus généralement en sociologie des individus. Je peux dire avec des pincettes. Et sur l'aspect sociologie des usages, le seul peut-être élément, c'est là aussi c'est très empirique, c'est des études d'appropriation de dispositifs innovants qu'on a menées avec des étudiants du master MOBAT, puisqu'on forme des promoteurs immobiliers, des chargés d'opération. Et donc on envoie nos étudiants observer comment les bâtiments sont réceptionnés. En première année de master, et de ce fait, avec un apport méthodologique de ma collègue Céline Cholès, qui est sociologue des organisations, et Paulette Marté, sociologue urbaine. Mais c'est elle, avant tout, qui vont apporter un regard situel là-dessus. Voilà, à la lecture du papier, je me suis posé deux questions qui pourraient être. En tout cas, dans mon esprit, je pense que ce ne sera pas partagé, tant mieux. Le fil conducteur de cette journée, c'est comment identifier et qualifier ce qui change et comment s'opère ce changement. Alors, Marie Pigagnol observe des frictions entre deux nouvelles figures de l'expertise urbaine dans le projet. Donc, au cours de transactions entre l'aménageur et le promoteur, sous injonctions environnementales nouvelles. La difficulté, c'est d'analyser. Je me pose une question, c'est analyser ce que les acteurs décrivent, ce que les acteurs de terrain décrivent comme nouveau, suffit-il pour qualifier les nouveautés? Peut-on qualifier la nouveauté en étudiant exclusivement les interactions entre les acteurs émergents du projet? On verra qu'est-ce que j'entends par acteur émergent et pourquoi je pose ces questions. Catherine Blanquement observe les ajustements des habitants du nouvelle résidence, donc ajustements relatifs au confort. Elle étudie les médiations entre eux et l'objet technique. À la fois, ça l'a conduit à étudier à la fois des interfaces homme-machine et en même temps aussi des chaînes d'acteurs dans la décision, puisque tu as bien montré avec des exemples que l'habitant ne pouvait pas agir directement et qu'il fallait passer par à la fois d'acteurs et d'objets pour pouvoir remonter globalement la température d'une journée dans le bâtiment. Alors, avant de parler peut-être précisément des papiers, il m'a paru nécessaire de resituer l'activité des bureaux d'études que Marie Pigagnol a observée et les injonctions que Catherine a évoquées, ce que j'appellerais des innovations du cadre d'action. et ça m'oblige à apporter des connaissances préalables sur les organisations de projet et les évolutions du cadre qui ont motivé les deux papiers. Alors je suis désolé, mais ça prend un petit peu la forme d'un cours. Et là, je me situerai vraiment dans des apports du, je dirais, du réseau Rameau, où il y a toute une connaissance sur les jeux d'acteurs, les professions d'architecture, de la construction. C'est quand même une grande part de sociologie qui aide à comprendre les structures passées, l'organisation, et qui aide peut-être aussi, puisqu'elle s'y est penchée aussi, à comprendre déjà la nature des changements pour ces professions. Alors, ces apports, voilà. Quelques éléments de connaissance sur l'organisation des projets immobiliers. Très, très vite, je suis désolé de la forme, mais la maîtrise d'œuvre, c'est un terme qu'on n'a peut-être pas entendu dans les deux papiers. La maîtrise d'œuvre est recrutée par le maître d'ouvrage immobilier. Elle est responsable de la conception du bâtiment. De ce fait, elle définit les travaux à mener dans des cahiers des charges de travaux qui vont permettre ensuite aux promoteurs de consulter les entreprises de travaux. Voilà la position de l'un et de l'autre. Elle se compose généralement d'un bureau d'études fluide, d'un bureau d'études structure, mais qui n'est pas vraiment l'objet de cela. Par contre, le bureau d'études fluide nous intéresse parce que c'est lui qui a l'expertise énergie, et d'un architecte qui est généralement le mandataire. C'est un peu à la fois l'interlocuteur référent et celui qui va intégrer, construire la globalité du projet. À noter que, c'est important, les maîtres d'œuvre engagent séparément leurs responsabilités civiles et pénales, chacun en fonction de son domaine de compétence. Ça veut dire que chacun peut être attaqué par les clients, en cas de problème sur les appels-là, mais sur son domaine de compétence, pas attaqué de façon globale. Donc il a quelque chose de particulier à défendre dans le projet, qui en fait, ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on vient le chercher, c'est là-dessus qu'on reconnaît sa compétence. Donc, le projet immobilier est déjà forcément un objet frontière. Avec une obligation d'aboutissement partagée par des acteurs, mais qui ont à la fois des responsabilités spécifiques et des mondes cognitifs spécifiques, et en partie partagés. Et ça, je ne parle pas d'innovation là, je parle de l'organisation de tous les projets immobiliers. Le deuxième. Alors maintenant, si on passe à l'échelle de l'aménageur, donc c'est un ensemble qui aménage un ensemble d'îlots, comme Marie l'a bien expliqué tout à l'heure, lui va recourir à des maîtres d'œuvre, donc chargés de la conception, et responsables de la conception, mais pour définir les ouvrages qui sont sous sa responsabilité, la voirie et les eaux, qui n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, et puis à des assistants maîtres d'ouvrage pour aller préciser des objectifs, et notamment pour aller préciser, enfin pour renforcer, on ne va pas encore à la fin, les assistants maîtres d'ouvrage pour définir le cahier des charges des sessions de terrain au maître d'ouvrage immobilier. C'est un processus ZAC, on ne rentre pas du tout dans la construction, la diffusion de l'urbanisme, enfin la construction en terrain diffus, hein, donc on est sur des aspects assez particuliers quand on fait l'aménagement. Mission de ces AMO, ça peut être, ces assistants maîtres d'ouvrage, ça peut être aussi de contrôler la conception, contrôler ce travail de conception. Alors évidemment, il y a une différence, il y a une divergence d'intérêt entre l'aménageur, qui défend l'intérêt de la commune, voire des riverains, hein, puisque les riverains peuvent s'opposer à la construction du projet, et le promoteur, qui lui défend avant tout l'intérêt des futurs utilisateurs des bâtiments et son intérêt propre, puisque la satisfaction de ces futurs utilisateurs permet de vendre à un prix élevé les bâtiments. Donc le maître d'ouvrage peut se faire assister par des assistants maîtres d'ouvrage qui le conseillent. Voilà la chose. Notez que l'assistant maître d'ouvrage ne participe pas directement à la conception. Il est simplement là pour conseiller et contrôler. Notez aussi qu'il n'a pas de relation contractuelle avec la maîtrise d'œuvre, donc les concepteurs, ni avec les entreprises de travaux. Alors, de façon classique, l'AMO, un AMO très important, très fréquent qu'on va rencontrer, notamment pour les grands projets urbains ou aussi pour les bâtiments tertiaires, notamment le tertiaire public, c'est le programmiste. Programmiste, ça, Jodel Zetlaoui a écrit pas mal de choses sur les programmistes. On va retrouver un programmiste aussi lorsqu'il y a plusieurs maîtres d'ouvrage qui sont relativement impliqués dans un projet. Tout ça est parfaitement décrit, là je vous dis très très rapidement, il y a toute une littérature donc avec les auteurs de la Véronique Biot qui est présente ici, Eric Henry, Guy Tapie, Jacques Bobroff, qui ont décrit longuement, fait une sociologie.
Ouais. Il ne reste que 25 minutes et ce serait bien que la salle puisse aussi intervenir. Donc si on comprend les réponses des intervenants plus la salle, il ne reste plus beaucoup de temps.
D'accord. Nouveauté, ce qui a surgi là-dedans, c'est l'AMO environnement, c'est les questions environnementales, avec le recours à des AMO environnement que Marie a décrit, qui sont les deux acteurs que Marie a fait. Là, je vous renvoie à des écrits de Éric Henry et Magali Paris sur l'émergence des AMOHQE et sur un papier que j'ai écrit avec Martin Symes sur le rôle des AMOHQE dans les projets tertiaires au moment où ils étaient très expérimentaux et très innovants. Alors, je vais aller vite. Arrive le concept d'éco-quartier. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit un très très, très intéressant, c'est Taoufik Souani. Bien comment on fabrique des éco-quartiers et qui se rapporte bâtiment, aménageur, promoteur est très bien écrit et illustré avec notamment les enjeux économiques. Voilà, donc si j'étais suffisamment clair et hélas long, vous avez compris que les lourdes études observées par Marie Cugnol en fait sont des figures émergentes dans le projet. Des AMOHQE qui sont et donc le périmètre de ce qu'elle nous a décrit, c'est à la fois centré sur ces figures émergentes nouvelles et aussi sur des projets qui ont une dimension nouvelle, doublement nouvelle, à la fois parce que il y a des questions, de nouvelles questions environnementales, des injonctions qui résultent sur la durabilité. Et nouvelle aussi parce qu'il s'articule à deux échelles, l'échelle du bâtiment et l'échelle du quartier. Donc on est dans la nouveauté. Alors, en toile de fond, on voit quand même des éléments, par exemple en termes de cadre d'action, puisque on nous parle de cahier des charges. Environnemental hein, qui s'applique aux promoteurs, sachant qu'autrefois sur le cahier des charges, c'était strictement architectural, qui était des formes d'accès, maintenant il traîne environnemental et d'âge. Et puis un autre élément de cadrage qui là pèse, et on le voit dans les deux papiers, qui pèse plutôt sur les acteurs de la construction, sur la maîtrise d'œuvre, la future RT 2012, et puis, future à l'époque de la conception de ces. Deux projets que vous avez étudiés, me semble-t-il. Et puis, la perspective 2020 qui permet que les acteurs cherchent déjà à anticiper. Donc, ils sont dans un processus de développer, dans l'idée de développer leurs compétences et de se construire des références. Et ça, je pense que Marie Pignanul a bien insisté sur cette notion puisque ces acteurs sont dans une compétition, il est important pour eux de se distinguer et de faire valoir leurs compétences. Voilà, donc sur le premier, ça pose une question sur le premier papier, c'est est-ce que la sociologie mobilisée dans le papier permet de bien voir l'ampleur des changements? Est-ce qu'il n'est pas aussi nécessaire de regarder davantage, essayer de comprendre où est l'innovation, de regarder le changement des cadres d'action qui est simplement évoqué dans le papier. Et là, moi, je vous propose un auteur assez intéressant, c'est Patrice Fichy, qui parle de cadre de référence sociotechnique. Et L'idée, c'est qu'une innovation se généralise lorsque s'accorde un nouveau cadre d'usage, plutôt en termes de valeurs et d'enjeux, avec un nouveau cadre de fonctionnement, donc des organisations, des procédures, des compétences, des ressources. Et l'un et l'autre, cadre d'usage et cadre de fonctionnement, sont préparés par des imaginaires sociaux et des imaginaires techniques. L'imaginaire technique étant des objets techniques prouvant qu'il existe des solutions aux nouveaux imaginaires sociaux. Voilà la façon dont... Un autre auteur peut-être qui peut être intéressant, mais j'en dis simplement deux mots, c'est Roger Sebrett sur la diffusion des innovations, qui écrit sur la diffusion des innovations. Donc lui s'intéresse aux relations entre une innovation et ses milieux adoptants en identifiant cinq caractéristiques. La simplicité, Catherine Piémont l'a abordé aujourd'hui. La compatibilité, donc en quoi l'innovation est compatible avec les organisations et les procédures existantes. Et on voit la fonction d'intermédiation qui peut faciliter ou pas qui est nécessaire pour entrer en compatibilité. Et puis d'autres critères, je passerai là-dessus. Quelques questions sur le papier de Catherine. Déjà, peut-être vraiment un petit complément d'information, c'est que je crois que tu l'as senti, mais sur le projet de la caserne de Beaune, on a à la fois en 2011 3 ans d'expérience de bâtiment BBC, puisqu'ils sont construits avant. Et en même temps, on arrive au moment de la généralisation du BBC en France. Et donc, on sent déjà qu'il y a presque une routinisation dans la conception. Elle n'a pas posé de problème. Voilà, c'est peut-être pas le cas dans d'autres quartiers ou dans d'autres villes pour qui la BBC, le BBC était une expérimentation. Un autre aspect, c'est que il y avait une marge de manœuvre sur la liberté qui était laissée aux concepteurs sur les dispositifs techniques. Par contre, il y avait une très forte exigence sur le niveau par l'aménageur. Mais ça conciliait le niveau de la performance énergétique, mais ça conciliait, c'était équivalent à celle du BBC, donc ça s'est passé un peu comme une lettre à la poste. Voilà, par contre, il n'y avait pas de marge de manœuvre sur le niveau de la performance, puisqu'elle était doublement imposée. Alors, des questions sur l'intermédiation. Les bailleurs sociaux donnent des livrets d'accueil, ils ont donné dans tous les bâtiments des années autour, donc du bâtiment régulier, des livrets d'accueil qui sont transformés progressivement en livrets d'apprentissage. Je n'ai pas le temps d'en parler plus. Un élément sur le bridage. Le bridage, c'est assez fréquemment opéré par les bailleurs sociaux parce qu'il y a une mutualisation de la facture énergétique. Il n'y a pas de compteur individualisé. Et donc, le bailleur social organise le bridage, en quelque sorte, au nom de l'intérêt collectif des habitants de la montée. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un dispositif, le bridage n'est pas seulement un dispositif technique, c'est aussi un vrai dispositif social avec une dimension collective. Un absent de tes... On ne parle pas de facture énergétique, on ne parle pas de coût de consommation dans l'analyse. Alors c'est un peu étonnant par rapport à ce que j'entends avec mes collègues économistes. Ce dispositif des compteurs individuels... La perspective de la facture énergétique a-t-elle eu des effets sur la fixation de la température confort et à quelle échelle par qui? Et puis l'argument écologique non plus, on n'en parle pas. Il a disparu, c'est évanoui avec la. Est-il évanoui totalement? Je crois. Oui, et puis il y a une hypothèse sous-jacente à ton analyse, c'est que l'ensemble des dispositifs techniques qui font bâtiment était réglé pour l'efficacité énergétique avant la réception et que les ajustements relevaient simplement du confort. Alors ça, c'est vraiment un cas plutôt rare dans les bâtiments innovants ou même dans les bâtiments en général. En général, on a des bâtiments qui sont très mal réglés du point de vue de l'efficacité énergétique à leur réception et pour lesquels il faut 1 ou 2 ans d'ajustement, de réglage pour arriver à ça. Et donc, progressivement, on va baisser la température, en fait. on va arriver à optimiser, à baisser la température pour finalement atteindre, au bout de deux ans, être à 10-20% de la consommation prévue. Et là, on est dans un processus inverse, qui est peut-être lié aussi là, au processus d'apprentissage sur la zone par les acteurs qui savent d'emblée comment régler le bâtiment pour qu'il soit tout de suite efficace du point de vue énergétique. Voilà. Le dernier point, c'est peut-être la politisation. Mais ça, tu dois savoir mieux quoi en termes de calendrier. C'est si la ville de, le projet éco-quartier avait déjà été reconnu Grand Prix éco-quartier 2009. Ça a mis une lumière médiatique très importante et du coup ça a accéléré les plaintes, ça a redonné un écho beaucoup plus important aux plaintes là. Et donc est-ce que l'effet de politisation, c'est-à-dire la remontée aux politiques, n'est pas simplement conjoncturel dans ce